Merci. Alors la suite, vous pourrez la lire plus tard.
Je vous remercie beaucoup parce que en vous écoutant, j'avais vraiment pas l'impression que c'était moi qui avait écrit. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et puis, maintenant, je me rends compte que c'est moi et je suis un peu gênée d'avoir écrit ça.
Voilà. Donc là, on a découvert tout de suite un des aspects du travail de Marie Le Drian, c'est l'humour, enfin la présence de l'humour dans tout ce qu'elle écrit. Et tout en parlant d'ailleurs de sujets souvent très ou noirs ou très réalistes. Alors maintenant, on va essayer de vous connaître encore davantage. Et
oui. Avant, j'aurais souhaité dire un mot sur les éditeurs qui ont publié On a marché sur la tête. Ils s'appellent les éditions du chemin de fer. Et ils ont une façon de travailler qui est d'abord très professionnelle, mais ils allient le travail d'un écrivain et d'un plasticien. C'est-à-dire qu'ils demandent à un écrivain une nouvelle. D'abord, ils rentrent dans l'univers d'un écrivain. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Si ça leur plaît, ils lui demandent une nouvelle. Et ensuite, ils soumettent la nouvelle à un illustrateur ou à un peintre. Et donc, On a marché sur la tête a été illustré par un dessinateur qui va encore plus loin que moi, finalement, dans l'acousticité, je crois, parce qu'il a dessiné l'hôtesse des obsèques en maillot de bain, en bikini, qui surfe sur les tombes. Donc, en fait, il fait encore plus fort que... Enfin, moi, je trouvais que j'étais allée un peu loin, mais lui, il va encore plus loin dans ses dessins. Et donc, moi, je ne le connais pas, le dessinateur, mais finalement, on a collaboré ensemble à cette nouvelle. Et là, il continue les éditions du Chemin de fer. Ils ont publié Annie Saumon, ils avaient publié Beauchot. Et bon, je leur fais un peu de pub parce que je les aime bien. Et ils ont publié aussi Pierrette Fleutiot, Arnaud Catherine, et puis bon, des gens comme ça. Et c'est du bon boulot qu'ils font.
Voilà. Oui, donc on a bien marqué, hein, vous avez vu sur la plaquette et sur les affiches, c'est marqué rencontre. Quand on dit rencontre, ça veut dire échange. Donc évidemment, la parole est à vous aussi. Alors, pour avoir relu tous vos livres, relu un petit peu ce qu'on écrit sur vous, il y a une chose quand même qui apparaît tout de suite, c'est la passion pour l'écriture. Donc, si j'ai bien lu, en fait, elle a commencé très très jeune, puisque il paraît qu'à 7 ans, vous écriviez déjà. Alors, je ne vous demande pas de nous raconter depuis l'âge de 7 ans, mais en fait, comment s'est installé, quoi, et comment vous avez donné corps à cette passion?
D'abord, il y a eu, bon, ça n'a pas duré de 7 ans jusqu'à... Il y a eu la passion pour la lecture. Quand j'ai lu mon premier, ce qu'on appelait à l'époque le premier livre de bibliothèque, on appelait ça comme ça, quand j'ai lu mon premier livre de bibliothèque, j'étais complètement enthousiasmée, j'étais fascinée, je me suis dit, bon, faut que je fasse ça, quoi, faut que je fasse la même chose, faut que j'écrive. Donc je me suis mise à écrire des petites histoires. Moi qui étais pourtant hyper timide, j'apportais mes cahiers à l'école et puis on lisait les histoires en classe. Et puis, ça m'a tenue pendant, je dirais, jusqu'à l'adolescence à peu près, où je me disais, plus tard, j'écrirai, sans me rendre compte que c'était quand même assez difficile. Et puis, après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vécu, j'ai voyagé, je tenais un journal, mais je pensais même plus à devenir écrivain. D'ailleurs, c'était passé, quoi. Et j'ai quand même publié un récit, c'était donc Caraliga, qui a plu à un de mes amis, qui l'a imprimé à compte d'auteur, pour le premier, en 83. Et ce récit-là a eu un prix. Et puis, ça s'est passé comme ça, je veux dire qu'il a eu un prix, et c'est comme si j'avais été portée, quoi, en fait. Et là, je me suis dit, bon, ben, je peux écrire, mais je pensais toujours pas être publiée. Pour moi, être publiée à compte d'auteur, c'était quand même pas... avoir la validation d'un éditeur, c'était pas tout à fait pareil. Mais j'ai continué à écrire sans vraiment penser. Bon, puis un jour, j'ai expédié un manuscrit par la poste. Le premier a été refusé. Puis je me suis prise au jeu. Et puis j'ai écrit le deuxième, qui était Le Petit Bouduel, et qui a été accepté. Puis après, bon, bah, c'était fait. Je veux dire, mais j'ai pas rêvé jusqu'à mon premier roman a été publié, j'avais 40 ans. J'ai pas pensé de 12 ans à 40 ans que je voulais que ma vie passait par la publication, quoi. C'est à la limite, c'est un cadeau que j'ai reçu comme ça, un cadeau un peu empoisonné, parce qu'une fois qu'on a commencé, bah, on peut plus s'arrêter. À la limite, après le premier roman, quand on m'a dit votre roman est accepté, vous devez être hyper contente. Moi, j'étais plutôt embêtée parce que j'ai répondu, ouais, je suis contente, mais il va falloir que j'en écrive un autre, quoi. Je veux dire que une fois qu'on a commencé, c'est une drogue un peu, quoi. On se sent, il faut continuer. On a encore des choses à dire et puis on a envie. C'est quand même du plaisir que d'être publié et on a envie de continuer. Donc, en même temps, c'est un plaisir, mais c'est un piège, quoi. Donc, mais moi, j'en suis pas mécontente.
Alors après, Kira Ligia, c'était Les femmes de là-bas.
Oui.
Donc, parce que tous les ouvrages sont présents à la médiathèque, mais comme ça circule beaucoup en général et en particulier actuellement, il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc Les femmes de là-bas, qui sont des nouvelles qui parlent de femmes.
Oui.
Alors j'aimerais bien revenir sur ces premiers ouvrages parce que, je vous dirai si j'ai raison ou pas, j'y ai vu, comment dirais-je, ce que je veux dire, on trouve dans ces livres, ce qu'on trouve un peu, me semble-t-il, chez Annie Ernaux, c'est-à-dire est-ce que c'est l'expression d'une génération qui a eu du mal à se faire reconnaître, c'est-à-dire en particulier comme quand on est né du mauvais côté du pont, comme dit Josiane Savigno.
Je ne savais pas que Josiane Savigno disait ça.
Si, elle a dit ça, mais ça vient de sortir.
Non. Annie Ernaux, je me souviens que quand Kara Ligan est sorti, je ne sais pas si vous l'avez lu, Kara Ligan, c'est un récit là tout à fait autobiographique. L'histoire d'être, je résume, d'être née à Lanester, d'un milieu ouvrier, et d'être venue faire ses études à Lorient, et en fait, d'être née du mauvais côté du pont, si on peut dire, d'être née à Lanester, et de ne pas avoir le langage des gens ou du lycée de Lorient, je résume. Et donc Kara Ligan, ça explique toute la souffrance et toute la difficulté de passer de cette langue de Lanester au langage, parce que langage de Lorient. C'est vrai qu'Annie Ernaux dans La Place reprenait ce thème beaucoup mieux d'ailleurs, mais quand La Place était sortie, je m'étais ils étaient sortis ensemble, il me semble. Je crois que c'est la même année et j'avais pas été jalouse, c'est pas ça du tout, j'avais pas de raison, mais je m'étais dit je suis pas toute seule à avoir vécu ça, mais ça s'était limité là en fait. Après, j'ai pas eu le Kara Ligan, à mon avis, est le seul texte qui reprenne cette histoire d'être née du mauvais côté du pont. Après, dans Le Petit Bout du L, dans les autres, tout ce côté autobiographique, il n'apparaît pas. Oui. Bien que je continue à écrire avec ce que je suis, c'est-à-dire née à Lanester, mais depuis j'ai vécu quand même, j'ai bougé. Et donc ce côté, cette souffrance-là, elle a été dite dans Kara Ligan, ce passage du pont à l'autre, et après je crois que je n'avais plus besoin d'en parler, quoi. Donc il n'y a pas eu le problème de se faire reconnaître après, comme elle peut dire, d'être née.
Elle-même, continue toujours à en parler.
Irène Frein dit la même chose aussi.
Irène Frein dit la même chose. D'accord. Il y en a qui ont lu là les premiers ouvrages de Marie Le Drian? Oui, il y en a plein. T'es méchante.
Non, mais Kara Ligan, c'est vraiment, ça doit sentir pour les gens qui ont lu, c'est vraiment très autobiographique. Quoi. J'ai changé les prénoms, j'ai changé le nom, j'ai pas mis Lanester, j'ai mis Kara Ligan pour. Mais c'est tout est vrai, quoi, en fait, à peu près, quoi. Donc, après, moins. Les femmes de là-bas, ce sont aussi des nouvelles où je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Mais là, c'est plus un règlement de compte, c'est comme. Un règlement de compte. Oui, il y a un peu ça dans Kara Ligan. Mais les femmes de là-bas, c'est plutôt l'envie de raconter comment vivaient les femmes et puis de me faire porte-parole un petit peu. Ce que j'ai abandonné par la suite, quand même.
D'accord. Alors après, vous avez dit, vous passez à des romans. Le premier, c'est Le Petit Bout du L, qui est paru chez Robert Laffont. Ensuite, le dimanche, on va au restaurant. Donc, vous avez des petites plaquettes, je pense. Vous avez une présentation rapide des livres pour ceux qui ne les auraient pas lus ou qui ne connaîtraient pas, ce qui va vous permettre de situer. Alors, ce que j'aurais aimé vous demander, c'est comment naissent vos personnages, comment naissent vos histoires. Là, vous avez dit que vous ne racontiez plus, êtes d'accord là-dessus?
Non, alors, l'histoire naît au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que quand je commence, je ne sais absolument pas où je vais aller. Je parlais des nouvelles tout à l'heure. Quand j'écris une nouvelle, quand par exemple j'ai écrit la visite de la dame des obsèques à Albert Léonard, là je savais où j'allais. Une nouvelle, je raconte quelque chose que j'ai entendu, ou une idée que j'ai eue en voyant vivre des gens, et la nouvelle, je sais où je vais, je sais où je vais atterrir. Le roman, quand je le commence, quand j'ai commencé Le Petit Bout d'Huel, j'ai écrit la première phrase, je n'ai pas de machine à coudre, et je ne savais pas où j'allais. Je veux dire que petit à petit, ça s'est fait, et ce sont les mots qui ont entraîné qui entraînent les personnages, qui entraînent l'histoire, en fait. Je ne sais pas en démarrant où je vais. Quels que soient pour les 6 livres, en fait. C'est différent pour les nouvelles.
Et cette phrase, justement, elle est née comment ? Je n'ai pas de machine à coudre.
Je n'ai pas de machine à coudre. J'avais pas de machine à coudre. Je cousais des coussins à la main. Oui. Et puis, c'est venu comme ça. Je veux dire, je n'ai pas de machine à coudre. J'ai toujours cousu à la main, ce qui est vrai. Ça venait, des exégètes pourraient dire, oui, le manque, je n'ai pas de machine à coudre. Première phrase très importante et tout. Moi, je peux vous dire seulement que j'ai commencé comme ça. Et puis, comme j'écrivais à cette époque-là le dimanche, de dimanche en dimanche... j'ai trouvé un prénom pour l'héroïne qui s'appelle Claire. J'ai trouvé un prénom pour sa copine. Je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'elle aille voir cette copine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses inconscientes qui réapparaissent, mais je veux dire qu'au départ, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et même à la fin, je crois qu'elle se met à écrire, à quitter les coussins pour faire des nappes. Je n'avais pas prévu du tout à l'avance. Donc, l'histoire, je ne préétablis pas de choses en démarrant.
D'accord. Donc vous ne faites pas un plan ?
Non. J'ai pas de fiche, j'ai pas de...
Ah oui,
c'est... Non. C'est comme ça. C'est, on peut prendre l'exemple du sculpteur. Quand le sculpteur a une masse de pierre devant lui, il démarre, il sait peut-être qu'il va faire telle sculpture ou telle autre, mais en même temps, il avance avec ses instruments, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et pour l'écriture, c'est pareil. C'est comme si les mots étaient des marteaux-piqueurs ou un burin ou un marteau. Et puis, je ne sais pas comment ça s'appelle chez les sculpteurs. Et moi, j'avance comme ça. C'est-à-dire que les mots me servent comme une... Je ne sais pas, je crois qu'en poésie, c'est la même chose. Quand on démarre, on ne sait pas où on va aller. C'est chaque mot qui suit l'autre ou chaque phrase qui suit l'autre ou chaque expression. Parce que, par exemple, dans Le Petit Bout d'Huel, il y a des expressions qui me sont venues comme les groupes heureux ou bien la grande occasion d'aller dire oui ou des choses comme ça, des expressions qui me plaisaient et qui entraînaient ensuite d'autres choses. Mais il y a aussi des images qui me viennent de la réalité de la lecture et qui alimentent. Mais au départ, j'ai rien. J'ai mon cahier, j'ai mon stylo et c'est tout. Et puis maintenant, mes lunettes.
Oui, bien sûr.
J'avance. Qu'est-ce que vous entendez par comment se structure ?
J'entends bien que vous disiez que les idées viennent au fur et à mesure de l'écriture. Et votre roman, il a emporte un début, une fin, il a un lieu, il a un
chapitre. Oui, il y a des chapitres, oui. C'est quand même plutôt en général des monologues qui sont un peu musicaux et puis qui quelquefois traînent de la vie de certains, mais qui se construisent au fur et à mesure, et je ne sais pas, les idées apparaissent. Par exemple, dans Attention éclaircie, il y a cette histoire de la mère qui demande pour les... Je ne sais plus comment expliquer, qui demande pour les vœux, qui demande un service à sa fille. Bon, je ne peux pas trop le raconter, mais qui demande un service assez important et assez macabre à sa fille. L'idée m'en est venue au moment où j'écrivais. Je veux dire, quand je commence, c'est ça qu'on appelle... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont comme ça. Ils débutent, ils ne savent pas où ils vont. Moi, je ne sais pas. Ça se structure petit à petit. Après, je reviens. Je recopie beaucoup. J'écris à la main, je recopie à l'ordinateur, j'imprime. Je recopie à la main de nouveau. Ça modifie, ça me donne des ouvertures. Et je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un travail artisanal. C'est-à-dire que j'ai rien. C'est ça qui est angoissant, en fait, et que petit à petit, je construis quelque chose qui augmente au fur et à mesure des moments où je travaille dessus.
Il y a beaucoup de réécriture.
Alors, les réécritures, c'est aussi pour pallier à l'angoisse de ce qui va suivre, mais je veux dire que je reprends souvent le début du roman, et je réécris 10 pages, 20 pages, et ça fait comme des routes qui s'ouvriraient, je veux dire, et puis qui me permettraient d'aller un peu plus loin, soit dans une direction, soit dans l'autre. Je vais faire quelque chose à un personnage et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'au début, j'invente aussi des personnages au fur et à mesure. J'ai pas telle personne et telle personne qui vont. Enfin, j'ai pas de fiche, voilà, en gros, c'est ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, je me demande si ça gêne pas, si ma façon de travailler ne se retrouve pas dans la lecture et ne gêne pas le lecteur quand il se met à lire l'ouvrage. Si, à la limite, en commençant, j'avais mon plan, ma structure, ça ferait pas des livres plus faciles à lire. Mais bon, je sais pas.
Alors, est-ce qu'on pose la question ou pas?
Ouais. Oui, par exemple, pour prendre les 6 romans, parce que là j'ai l'impression d'être arrivée à une pause avec les 6 et puis que peut-être le 7e sera quelque chose de différent. Les premières phrases, pour certains, ont été déclencheurs. Par exemple, dans Ça ne peut plus durer, la première phrase, c'est, donc il s'agit d'une femme qui est en maison de retraite, et la première phrase, c'est « On m'a amenée ici parce que je téléphonais à des gens déjà morts ». Et pour moi, cette première phrase-là, elle a entraîné tout le livre. Et je l'aime bien. Bon, je n'ai pas de machine à coudre, je l'aime bien aussi. D'autres, la première phrase d'Hôtel maternel, je ne l'aime pas. J'aurais dû la changer, mais je m'en suis rendu compte après. Et c'est souvent les premières phrases qui débloquent, en fait. Et ça fonctionne comme ça. Vous me posez la question, c'est comme si on demandait à un peintre comment il fait. Je veux dire que bon, il démarre et puis ça suit, quoi. Bon, des fois ça suit bien, des fois ça s'arrête, des fois on est content, d'autres pas. Et puis quelquefois on donne du plaisir au lecteur, quelquefois pas. Je veux dire, tout. Ça, c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Non, je me demandais s'il y en avait qui voulaient répondre à la votre question. Quoi. Est-ce que ça donnerait des livres plus faciles à lire s'il y avait un plan? Ou bien est-ce que les gens trouvent que c'est des livres difficiles à lire?
Moi, j'ai l'impression que ce sont des livres difficiles à lire, mais je ne sais pas. Ouais, je parlais du lecteur parce que c'est Jean-Noël Blanc qui est venu ici, je crois, pour une rencontre et qui m'avait dit une fois, on en parlait comme ça entre écrivains, il avait dit une fois il faut faciliter le travail du lecteur. Mais il disait pas ça à moi obligatoirement, mais il disait on parlait tous ensemble, quoi. Et il disait dans l'ensemble, il faut faciliter le travail du lecteur. Et moi, je me suis dit, mais ma fille, parce que je me parle comme ça, et je me suis dit, mais est-ce que tu as déjà pensé que tu avais un lecteur? Non, mais c'est important, ça, quand même. Et c'était avant Attention éclaircie. Et je crois, je suis désolée, mais je crois que jusqu'à présent, je n'avais pas pensé au lecteur. J'écrivais pour le plaisir d'écrire, pour le plaisir de faire avancer les choses, d'agencer les mots, de faire la musique des phrases. Mais j'étais contente qu'on me dise, j'ai lu, j'ai aimé, tout ça. Mais je n'écrivais pas en pensant qu'il allait avoir un lecteur. Et je me suis culpabiliser, enfin je sais pas, ça va peut-être modifier ma façon de travailler, mais dans Attention éclaircie, j'ai fait un peu plus attention justement au fait qu'il y avait en face des gens qui allaient lire et qu'il fallait peut-être qu'ils aient, comme on dit à l'Anester, du goût à lire, quoi. Mais je sais pas si vous en êtes rendu compte.
C'est ça la magie de la lecture, justement. On rencontre un écrivain où on est en métier personnel, la magie de la.
Ça, je ne sais pas faire.
C'est vrai, il n'y a que comme ça que je comprends. Je veux faire des livres faciles avec une Bible.
Alors, je peux continuer sans faire attention au lecteur, alors.
Oui.
En vous écoutant, je suis en train de me dire que, en disant il faut que je fasse plus attention au lecteur, je suis peut-être en train de penser que quand on fait plus attention au lecteur, on a plus de succès commercial. C'est peut-être ça que je suis en train de me dire, dans le fond. Parce que non, mais c'est parce que on a parlé de ça, des critiques et puis de l'absence de critiques à partir d'un certain moment. C'est qu'au fur et à mesure de mes publications, j'ai changé de directeur littéraire. Je pense à ça parce que vous parlez de monologue. Et j'ai changé de directeur littéraire au moment de La cabane d'Hippolyte. Le directeur littéraire, c'est le type qui reçoit votre manuscrit, qui le lit, qui l'accepte, qui demande des corrections ou pas, et qui après le présente aux représentants, aux attachés de presse et au monde de la maison d'édition. Et au moment où j'ai changé d'éditeur littéraire, ou de directeur littéraire, pardon, la perception de mes livres a été modifiée. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas ce que je faisais, en gros peut-être pour les raisons... Enfin, les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire trop obsessionnel, trop de monologues, pas assez de, je sais pas, d'ouverture vers l'extérieur. Enfin, je ne sais plus exactement les termes qu'il utilisait. Et c'est à ce moment-là, peut-être aussi en dehors des phrases de Jean-Noël Blanc, que je me suis dit, mais peut-être que je ne fais pas assez attention au lecteur. C'est là que je me suis dit peut-être aussi ce genre de choses. Et d'autant plus que les critiques étaient moins présentes. Enfin, je me suis dit que quelque chose n'allait pas dans ma façon de faire, quoi. Mais peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Ben, c'est ce que les directeurs littéraires n'aimaient pas. Ben oui, mais faut que le manuscrit soit accepté aussi. Bon, ouais, c'est ça le problème. Ouais. Moi,
et qu'ils le défendent après.
J'avais dit à Bernard Coisy en venant que j'attendais beaucoup de cette rencontre avec vous, parce que je suis en train de me poser des questions justement sur, enfin, sur comment je dois continuer encore à travailler. Est-ce qu'on se lasse pas un peu de cette espèce d'écriture qui est quand même répétitive, enfin, c'est la question que je me posais, en fait. Encore que Attention éclaircie soit, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais soit moins... Oui. moins il y a plus...
Il y a une histoire voilà. Plus présente, oui.
Mm-hmm. Dans ce récit-là, il part tout seul quand même.
Oui.
Il part tout seul et pourtant il n'est pas convenu. Il n'est pas convenu du tout.
Non.
Il n'est pas convenu et on attend, on a des surprises, on n'attend pas. Mais il part tout seul. Il n'y a pas de difficulté pour le lecteur à suivre un récit.
C'est vrai. Ouais.
Est-ce que vous disiez, je ne prends pas ce titre-là comme un peu plus juré, dans ce récit-là, il va tout seul quand même.
Oui.
Il va tout seul et pourtant il n'est pas convenu. Il n'est pas convenu du tout même.
Non.
Il n'est pas convenu et on attend, on a des surprises, on n'attend pas cette histoire. Mais il va tout seul. Il n'y a pas de difficulté pour le lecteur à suivre un récit.
C'est vrai. Ouais, ben, c'est gentil. Mais non, c'est vrai que celui-là est peut-être plus facile. Je crois que c'est peut-être La cabane d'Hippolyte qui me posait problème. Mais c'est parce qu'en ce moment, il y a une classe de seconde qui travaille dessus et je les plains, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, on a beau discuter par blog, par mail et tout ça, je me dis quand même, les pauvres, c'est rude, quoi. Mais je me pose peut-être des questions qui sont... C'est parce que aussi j'ai commencé autre chose et je ne sais pas trop dans quelle direction aller. Donc c'est peut-être... Je vous prends à témoin des questions que je me pose en ce moment et puis c'est peut-être ça, quoi. Je ne sais pas, ils adhèrent, hein, je veux dire, mais ils font un effort, quoi, quand même. Bon, mais c'est peut-être pas aussi... Non, mais c'était pas aussi.
Je ne sais pas si je peux vous consoler, mais j'ai jubilé du début jusqu'à la fin.
Pour La cabane d'Hippolyte ?
Je ne pouvais pas m'arrêter de lire parce que c'était à chaque phrase un plaisir. Moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, personne ne pourrait le dire autrement.
Ben, mon directeur littéraire n'avait pas aimé du tout. Voilà. Mais non, je pense qu'il y a des sensibilités différentes. Et puis, lui, il aime bien les choses qui sont adaptables au cinéma. C'était pas. Non, mais c'est parce que vous me posiez la question de savoir pourquoi, à un moment donné, il y avait cessé d'avoir des.
Oui, si vous voulez. Non. Oui, ce qui est surprenant quand on suit un petit peu ce que vous avez écrit, c'est qu'au démarrage, enfin pendant plusieurs années, vous avez eu droit à toutes les critiques, très très bonnes critiques, mais de tous les journaux, Télérama, Nouvel Observateur, L'Événement du Jeudi, Le Figaro Littéraire,
L'Humanité.
L'humanité dimanche, oui, une très bonne, oui. L'humanité, j'avais noté d'ailleurs, je ne sais plus où j'ai noté ça, le magazine littéraire, le Monde, etc., avec des signatures comme Michel Gazier, comme Kefelec, comme Hugo Marsan, enfin des gens connus et qui connaissent bien la littérature. Et en plus, vous étiez toujours à côté de, enfin souvent, avec d'autres auteurs, enfin critiqués en même temps que, par exemple, Marie-Anne Daye ou Amélie Nothomb, ou Christian Gailly. J'ai vu aussi une critique à côté d'un livre de Christian Gailly. Et puis, brusquement, dans les deux derniers livres, il n'y a aucune critique, il n'y a rien, il y a une annonce, et il n'y a plus trace de critique dans la presse, donc la question, je me demandais pourquoi.
Oui, alors c'est pour ça, on parlait du directeur littéraire. Après le téléphone qu'on a eu hier, je me suis posé moi aussi la question. Et j'ai téléphoné une copine qui est attachée de presse dans une autre maison d'édition et elle a été assez claire. Enfin, je veux dire que la maison d'édition joue beaucoup dans dans la promotion du livre. C'est-à-dire que vous avez 10 livres qui sortent, par exemple, moi j'étais chez Julliard, 10 livres sortent chez Julliard en septembre. La maison d'édition, enfin je ne sais pas qui dans la maison d'édition, le directeur littéraire ou les commerciaux, non pas les commerciaux, ils obéissent, mais on dit il faut miser sur ces 4-là ou ces 3-là. Bon, si le directeur littéraire n'aime pas, on peut le comprendre, il ne va pas dire vous misez sur celui-là s'il ne l'aime pas. Donc il dit vous misez sur cela et à ce moment-là, les attachés de presse, la distribution des livres, c'est un produit, un livre, c'est comme un dépôt de yaourt. Si vous voyez une pub sur les pots de yaourt à la télévision, si après vous allez au centre commercial et que vous voyez le pot de yaourt, vous serez tenté de l'acheter. Je veux dire que ça se passe pareil. Je pense que les livres qui sont sortis à la rentrée, je n'ai pas les titres, mais tous les articles avaient déjà eu lieu au mois d'août et au mois de septembre. Après, vous voyez tous les livres en vente dans les guichets de gare, dans les librairies, très, très tôt en début septembre. Bon, on est tenté de les acheter. Ça suit, quoi. Bon, et je pense que j'ai été, comment dire, faut pas être parano non plus, hein, je veux dire, j'ai été un peu mise à l'écart. Mais peut-être que mes livres étaient moins bons, je ne sais pas, ça, disons, j'ai pas eu de chance. Puis, moi je vois ça comme ça, j'ai pas eu de chance. Peut-être que l'édition a changé aussi, peut-être qu'il y a eu de plus en plus de livres. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus.
Il y en a beaucoup.
Quand Le Petit Boudu est sorti, je crois qu'il y en avait eu 500 là, en septembre.
Oui, là on est près de 700 maintenant.
Oui, enfin ça.
Oui, c'est pas.
Mais je sais pas, j'ai joué de malchance. Mm-hmm. Il y a aussi qu'il y a des auteurs qui maintenant sont incontournables. Mmh. Christine Angot sort quelque chose en septembre, c'est obligatoire qu'elle ait son papier. Il y a aussi que j'ai quitté Paris. Est-ce que ça joue Bon, j'étais pas tellement, comme vous me connaissez, j'étais pas tellement mondaine, mais je veux dire que j'étais là. Donc il y a un truc tout simple, c'est que l'attachée de presse, parce que c'est elle qui fait quand même beaucoup de choses pour nous faire connaître. L'attachée de presse savait que j'étais là, s'il y avait une radio, s'il y avait quelque chose comme ça, elle pouvait, ou une interview, elle pouvait me faire venir tout de suite. Étant en Bretagne, c'est plus difficile de... Enfin, je ne sais pas, je pense... En même temps, Ouest-France n'a pas tellement suivi dans les critiques non plus, donc je ne sais pas. Tout dépend de aussi de la compétence de l'attachée de presse. J'ai changé d'attachée de presse. On n'a qu'à dire que je n'ai pas eu de chance.
D'accord.
Donc je pense, hein, mais je sais que pour Hôtel Maternel, donc mon ancien directeur littéraire l'aimait beaucoup, et celui-là a eu beaucoup de presse. Donc ça joue quand même l'amour que... Ben, je pense que c'est pareil en bibliothèque, quand il y a un livre qui vous plaît.
Exactement.
Sauf qu'il n'y a pas d'enjeu financier. Alors que l'éditeur, il a quand même envie que ça se vende. Enfin, son boulot, c'est quand même de faire du... sauf certaines petites maisons qui sont bien aidées, et puis qui n'ont pas des buts essentiellement commerciaux, ils ont quand même besoin de survivre. Donc ils ont besoin de vendre. Donc,
il faut
se mettre à leur place. Je veux dire que il n'y a pas que. Bon, et même s'ils aiment bien un livre et s'ils savent qu'il ne marchera pas, quelquefois ils acceptent des bouquins et ils disent on n'en vendra que 1000 et puis on le prend quand même parce qu'il nous plaît. Mais il y a des choix éditoriaux et puis après il y a aussi ce qui pousse derrière. Quoi. Mais ça peut aussi être des bites quand ils aiment bien. Mm-hmm. Par exemple, quand j'étais chez Julliard, Mazarine Pinjot a sorti son premier roman. Qui s'appelait Premier roman d'ailleurs. Mmh. Et ils ont pensé que ça allait marcher. Ils en ont tiré 30 000 exemplaires ou 50 000, je ne sais plus. Et ça a été un bide. Mmh. Donc ça peut aussi ne pas. Ça peut ne pas marcher, quoi. Mais la politique éditoriale compte beaucoup. Et commerciale.
Oui. Oui.
Ouais, oui, non, enfin, il a créé une petite maison d'édition pour publier ce livre-là. Mais c'était, c'était du livre à compte d'auteur qu'on appelle. Ouais. Mmh. Ben, oui, mais quand on écrit pour soi aussi. Non, non, je crois que le passage, la différence, enfin, le passage, c'est plutôt, moi je dirais, entre le journal intime et le récit. Je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire Caraliga, malgré moi, je pensais quand même qu'un jour, ça serait peut-être pas publié, mais je ferais lire à quelqu'un. Chose que j'ai faite d'ailleurs, et à ce moment-là, quand cette personne a trouvé que c'était bien, il a pensé que. Mais je pense qu'en l'écrivant. J'aurais peut-être dû m'auto-censurer un peu plus pour que ça fasse pas de chagrin à certaines personnes, mais je veux dire que le passage, enfin je veux dire, le passage de l'intime, c'est plutôt ça relève plutôt du journal. Enfin, à partir du moment où on est dans le récit, on sait déjà qu'il y aura quelqu'un, même une seule personne, mais il y aura au moins une seule personne à le lire, alors que le journal intime, c'est pour soi. C'est plutôt là que je verrais la je sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est plutôt là que je verrais la frontière en fait. Je sais pas, c'est peut-être sur la façon de travailler. Je crois que le récit, on se donne une manière déjà géographique de travailler, c'est-à-dire on l'écrit pas de façon quotidienne comme le journal. On sait déjà que ça va faire quelque chose. Bon, je sais pas, c'est comme le journal, c'est un peu de la cuisine au jour le jour, alors que le récit, c'est presque un déjeuner ou un dîner avec une entrée, un plat, et puis, enfin, je prends souvent des exemples de cuisine, mais c'est plus structuré, quoi. Alors que le journal intime, bon, bah, c'est des petites choses du grignotage, c'est dans la forme et puis aussi dans le fond, on dit pas les mêmes choses. Donc, encore que certains écrivent leur journal intime en se disant qu'un jour ce sera lu, puis que ce sera... Moi non, je veux dire, c'est pas la même chose. Et puis au niveau du style aussi, on ne cherche pas à ce qu'il y ait une continuité dans la musique, alors que dans le récit, on tâche quand même de se trouver un petit peu comme sur une portée musicale. On essaye d'être sur la même clé, en fait. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de musique, mais je me rappelle la clé de sol, la clé de fa. Dans le récit, on tâche d'être un peu dans la même tonalité, voilà, c'est plutôt ou dans le même ton même, pour reprendre des exemples de peinture, quoi, en fait. Alors que dans le journal, on peut zigzaguer, puisque personne ne regardera. Alors, oui. Oui. Oui, parce qu'on a envie que ça fasse un objet cohérent, même si on le garde. Parce que j'ai des manuscrits qui ne sont pas publiés, et par exemple, et qui ne sont pas publiables même, mais j'ai quand même voulu qu'ils fassent un objet cohérent. Et ça n'a rien à voir avec le journal. Je le sens. Je le sens. Je le sens, ça m'est arrivé de le présenter quand même à mon directeur littéraire et qui m'a dit « Non, ça va pas, Marie. » Et je savais de toute façon qu'il allait me dire, ça me faisait mal quand il me le disait, mais je savais que ça passerait pas. Parce que ça va pas, parce que la musique va pas, parce que le personnage est pas intéressant, parce qu'il est pas sympathique, ou parce que ça passe pas, quoi. On sent pas. Je veux dire, il y en a qui sont publiés, par exemple. Enfin, certains ouvrages sont publiés, on n'accroche pas. Ceux-là, ils n'auraient pas dû être publiés. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Mais déjà, moi, je sélectionne moi-même, je sens que ça ne va pas. Même pour des nouvelles, par exemple. C'est plus évident pour des nouvelles. Il y a des nouvelles que j'ai écrites et que je ne présenterai pas parce que je sens qu'elles ne vont pas. Soit qu'il faudra que je les retravaille, soit qu'il faudra que je les abandonne parce que ça ne joue pas, quoi. Oui, c'est pas grave. On a souvent dit la même chose.
Est-ce que c'est la langue de l'anesthère?
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que c'est la conscience que c'est cette langue-là? Je ne sais pas si c'est contre celle du 17.
Non, non, la... Ouais, j'ai vraiment l'impression, dans les femmes de là-bas, d'avoir été porte-parole, en fait. J'ai raconté des choses, mais c'est pas moi qui parlais. C'était comme si j'étais le regard qui avait entendu, ça va pas, mais comme si j'avais entendu des choses et que j'avais envie de les restituer. Mais il n'y a pas de... Dans Caraliga, j'oppose tout le temps tel langage et tel autre. Enfin, je fais l'opposition entre les deux. Dans les femmes de là-bas, j'ai pensé que la langue des femmes de la Nester ou d'ailleurs, hein, parce que je me souviens que ça avait été lu par Jacques Esselias et qu'il avait trouvé que ça... Enfin, lui, ça lui parlait. J'ai vraiment essayé de restituer, en fait. Pas de... Enfin oui, de reprendre et puis de leur... un petit peu comme ferait un ethnologue, en fait, finalement. C'était ce que j'ai voulu faire. Mais aussi parce que c'était des scènes, des éléments, des phrases qui m'avaient touchée.
Oui, il y a un monde, mais il n'y a pas de personnage en tant qu'elle. C'est dans la suite, le roman qui suit.
Oui, mais là, c'était la vie des femmes. À la limite, c'était les femmes, c'est comme si elles étaient indissociables. Quoi. C'était leur mode de vie que j'essayais de raconter, en fait. Et en racontant leur mode de vie, il n'y avait peut-être pas besoin de... Si, il y a des prénoms, mais il n'y a pas de personnage central. Non, ce sont des nouvelles aussi. Hein. Donc, non, ce ne sont pas vraiment des nouvelles, je trouve. Ce sont des petits tableaux. Des petits tableaux qui montrent comment on vivait, comment on faisait la cuisine, comment on attendait les hommes, comment on enterrait les gens, comment il y avait des suicides. C'est des petits tableaux de la vie quotidienne, en fait. Et là, il n'y a pas besoin de personnage, parce que c'est pas un roman non plus. Donc, mais ce ne sont pas non plus des nouvelles, en fait. C'est des petites touches. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, des petites... Ah, ça, c'est dans les nouvelles, ça, c'est dans Hospitalité. Oui. J'ai réfléchi beaucoup avant. Puis je réfléchis aussi au fait que c'est important que les prénoms aillent ensemble. Par exemple, dans Attention éclaircie, j'ai beaucoup réfléchi à Odile et Solange. Je voulais que Odile et Solange, ça... Enfin, j'ai beaucoup réfléchi au fait qu'il fallait que ce soit une belle musique, parce qu'elles étaient tout le temps ensemble, les deux. Elles allaient sur les tombes de leur mari, elles allaient dire du mal des autres. Enfin, je veux dire, elles s'organisaient tout le temps ensemble. Et il fallait que ce soit Odile et Solange, parce que ça coulait bien, quoi. Je sais pas. Ça pouvait pas être Odile et Geneviève, ça pouvait pas être... Puis non plus Solange et Odile, il fallait que ce soit joli. Pour ça, je réfléchis beaucoup aux prénoms pour qu'ils entrent bien dans la musique du livre. Quelquefois, je peux me planter, hein, mais j'y fais attention autant qu'à chaque mot que j'utilise ou pas.
Tu fais beaucoup référence à la musique, est-ce que tu écris en musique ?
Non, pas du tout. Je peux pas. C'est ça, j'envie les peintres ou les gens qui peuvent travailler en musique, parce que je trouve que c'est très agréable. Moi, je peux pas, il faut que ce soit totalement... on a besoin d'être concentré quand même, et il faut que ce soit silencieux. Donc, pas de musique, ni même... je sais pas si on l'a dit, non, je crois pas. Quand je travaille, quand j'ai l'impression d'avoir terminé... c'est pour ça que je parle beaucoup de musique, mais je m'enregistre à la fin. C'est-à-dire quand mon manuscrit me semble être fini, enfin à peu près achevé, je m'enregistre une fois, je m'écoute, ça entraîne des corrections. Déjà l'enregistrement entraîne des corrections parce que je sens qu'il y a une phrase qui ne va pas. Je la reprends, des mots qui ne vont pas, ou des répétitions qui ne vont pas. Et, par exemple, s'il y a deux ou trois fois le verbe faire, ça ne joue pas, il faut le changer, il faut mettre un autre verbe à la place. Si on met un autre verbe à la place, on se rend compte que ça modifie en escalier l'ensemble du paragraphe, par exemple. Bon, tout ça, je le fais, je m'enregistre, je m'écoute pour voir si ça va. Et en général, après, si je suis bien consciencieuse, je me réenregistre une deuxième fois et je me réécoute une deuxième fois. Mais ça, le fait d'enregistrer, ça, je l'avais... je me suis autorisée à le faire toute seule, je ne savais pas que d'autres le faisaient, mais le fait de bien regarder la répétition des mots, j'ai beaucoup appris avec Annie Saumont, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une novelliste, et qui fait, elle, très très attention à des verbes qu'elle n'aime pas, comme faire, penser, avoir, vouloir, et tout ça, et qui essaye de les éliminer de ses nouvelles, et ça fait des choses... Bon, ça change totalement la qualité de l'écriture et la qualité du livre, quoi. Et ça, j'essaye de faire attention. Parce que je suis maniaque, mais aussi, on ne peut pas donner n'importe quoi à lire aux gens. Donc, finalement, je fais quand même attention au lecteur.
Ouais.
Non, mais il faut le respect. Enfin, je sais pas, on peut pas. Je sais comment on cuisine, on peut pas donner n'importe quoi. Faut faire gaffe, quoi, c'est tout. Donc, on a parlé de Marie-Henri, par exemple. Il y a beaucoup qui aiment bien Marie-Henri. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans Marie-Henri, c'est pas l'histoire, c'est pas la façon dont j'ai écrit, c'est qu'il y a des bêtises comme ça, il y a des répétitions, il y a, au début, il y a le verbe faire qui apparaît justement plusieurs fois, il y a des erreurs d'écriture, et je suis gênée de voir ça, ça me gêne, je ne peux pas le relire, parce qu'il y a des trucs comme ça qui me chiffonnent, quoi. Donc c'est là où je trouve qu'il faut faire attention.
Vous vous mettez là en position de faire parler quelqu'un qui n'a plus sa tête, on va dire. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'était une intention de votre part, ou est-ce qu'il n'y a pas un jeu de miroir là, c'est-à-dire que le personnage n'est pas un peu comme l'écrivain, qui n'est pas crédible en quelque sorte, puisqu'il raconte des histoires qu'il invente, un peu comme le personnage. Mais en même temps, vous éclairez là une situation de maladie qui est chante, qui est mouvante, et vous lui donnez quelque chose de nouveau dans la nature où on imagine qu'on pourrait être comme ça et qu'on se mettrait à la place de quelqu'un qui se fait malade. Sans doute pas possible, mais ce roman nous amène là.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que l'écrivain n'est pas un peu comme ça? Il raconte des histoires qui ne sont pas crédibles, mais il apporte quelque chose de nouveau à quelque chose. Il éclaire d'une certaine façon la réalité. Est-ce que dans ce roman-là, vous aviez cette intention-là?
Je ne sais pas si j'avais une intention. Le plaisir que je me suis donné dans ce roman-là, c'est de me mettre à la place de cette femme. Et d'essayer, enfin je m'en suis rendu compte après quand j'avais terminé, d'essayer de faire que finalement c'était elle qui semblait avoir raison. Enfin je veux dire, c'était elle qui semblait être dans le vrai, et que c'était les autres qui... Mais c'est ça la maladie aussi, je veux dire, c'était les autres qui semblaient faire des erreurs, quoi, en lui apportant des pâtes de fruits, en lui apportant pas de caramel. J'ai essayé de me mettre dans la tête de quelqu'un qui avait perdu la tête, oui, je sais. Mais j'avais pas d'intention. J'ai commencé, puis je jubilais à la voir réagir dans sa maison et avoir l'impression d'être dans le vrai. Enfin, je m'y suis mise à sa place, c'est vrai. Bon, mais moi j'avais l'impression qu'elle était crédible, que c'était les autres qui peut-être devaient essayer de voir si peut-être ils avaient toujours, enfin ils avaient peut-être pas raison. C'est peut-être un texte sur la folie, je sais pas, mais la frontière elle est limite, enfin. Et elle a fait des choses au fur et à mesure que j'imaginais pas qu'elle aurait pu faire non plus, mais moi je pensais que Léontine, enfin j'étais Léontine dans le texte, et mais pour moi Léontine était dans le vrai, tout en étant un peu, je sais pas, j'ai peut-être pas bien répondu à votre question. Oui, oui. Non, mais je trouve que il y a des gens qui m'ont dit qu'après la lecture de ce livre, ça nous a éclairé sur la maladie de notre mère. On la voit maintenant, de notre mère ou de notre père, parce que ça reprenait quand même un peu la maladie d'Alzheimer. Pas tout à fait. Oui, mais ils m'ont dit que ça nous permettait peut-être de mieux la comprendre. Mais c'est vrai que j'ai la place de manière à ce que ce soit elle qui soit pas la normalité, mais que sa voix ait un sens, en fait, voilà. C'est comme si j'avais essayé de redonner du sens à ce qu'elle vivait, et à ce qu'elle disait, à son langage et à sa façon de percevoir la réalité. Parce qu'en fait, quand on la suit, bon, bah, elle a raison de s'enfuir, enfin, elle est dans le vrai, les autres sont peut-être... Oui. Oui. Enfin, à certaines personnes, parce qu'en fait, tous mes personnages sont un peu décalés de toute manière, mais Léontine l'est particulièrement, et c'est pas seulement qu'on leur redonne du sens, c'est quoi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est comme si j'essayais de leur donner la parole, en fait. Et c'est peut-être qu'en cela, je reste finalement toujours malade de l'anesthère et des femmes de là-bas, c'est que j'essaye toujours dans mes... Enfin, j'essaye, je m'en rends compte après, de donner la parole à des gens qui l'ont pas. dans mes romans, je ne donne jamais la parole à quelqu'un qui aurait une Porsche, qui s'habillerait chez Dior et qui ne saurait pas quel parfum choisir, par exemple. Alors que ne pas savoir quel parfum choisir, ça peut être aussi obsessionnel que de ne pas savoir quelle langoustine acheter, en fait. Donc je pourrais transposer les caractères de mes personnages au niveau de l'obsession dans un milieu tout à fait différent. Mais en fait, je choisis toujours des gens un peu marginaux, un peu paumés, de milieux plutôt modestes, ils n'ont jamais tellement d'argent, et un peu sur les marges. Et en fait, peut-être que là, je reprends, c'est vrai, j'essaye toujours... Enfin, je ne veux pas dire non plus que ce soit une écriture militante, parce que ce n'est pas du tout ce que je cherche ni ce que je veux, mais ça revient quand même à ça, finalement, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Léontine, c'est donc une femme qui a perdu la tête, qui est un peu sénile, enfin, entre sénilité et Alzheimer, je dis ça pour les gens qui n'ont pas lu, mais qui n'a pas la parole. Dans les maisons de retraite, les malades n'ont pas la parole. Et là, elle l'apprend, enfin, j'essaye de lui la donner, je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Je viens de m'en rendre compte, je donne la parole à des gens qui ne l'ont pas.
Et en particulier à des femmes aussi, c'est presque tout.
Non, Chim, c'est un
sauf
garçon.
Sauf Chim, ouais. Mais, oui.
Mais Chim, c'est un garçon, mais il est complètement écrasé par un monde de femmes.
Ouais.
Ben j'essaye, je ne sais pas du tout si c'est... Ça leur donne une existence, en fait. Mais je répète, hein, mon but, c'est pas un but militant. Hein. Je veux dire que ça se trouve comme ça, et c'est peut-être une fracture que j'ai à un moment donné. Je veux dire que... Oui, puis la marginalité devient plus vivable aussi. En fait. Mais il y a aussi que c'est une incapacité de ma part. Je ne sais pas parler d'autre chose. Enfin, je veux dire, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, je sais pas parler des riches, quoi. Enfin, je peux le dire comme ça, mais je sais pas. Je sais pas parler des puissants, pourtant le pouvoir m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup savoir en parler, savoir ce que c'est, savoir pourquoi on l'aime, savoir... Mais je sais pas. Donc, c'est peut-être parce que moi aussi, je suis un peu marginale, donc... Mais je suis pas sûre, je crois qu'en fait, je suis une éponge. Enfin, les écrivains, ce sont un peu des... C'est Luc Lesio qui disait il n'y a pas longtemps que l'écrivain, c'était un regard. Moi, je ne suis pas sûre d'être un regard, mais au moins une éponge. Et j'entends les choses que disent les gens. Et sans doute que je suis plus réceptive à ce que disent les marginaux, les minorités, les paumés, et que les autres. Peut-être aussi parce qu'ils ne parlent pas, je ne sais pas. Ou parce que moi, je ne parle pas beaucoup non plus, donc j'entends plus. Et puis après, comme les éponges, on presse et je restitue. En fait, je ne crée rien, je ne fais que rendre ce que j'ai entendu ou ce qui m'a été dit, finalement.
Est-ce qu'au quotidien, vous fréquentez plutôt des gens modestes ou plutôt des gens riches?
Bonne question. Je ne fréquente pas grand monde. Je suis assez solitaire. Je crois que... Je fréquente plutôt des gens modestes. Je ne suis pas très à l'aise, enfin ça doit se sentir d'un carré les gars, mais je ne suis pas très à l'aise avec les riches, encore que maintenant je crois que je suis un peu à l'aise partout. Mais c'est aussi parce que quand on est écrivain, on vous considère différemment. Mais je fréquente aussi des écrivains, mais qui n'ont pas de moyens, donc qui sont très modestes. Mais c'est vrai que ce sont quand même des écrivains, donc ce n'est pas la même chose. Et je suis quand même, pour prendre un exemple pour les gens de Cloire, je prends le car, tout le monde le sait, pour aller à Quimperlé au marché, et vous ne pouvez pas savoir comme je suis à l'aise dans le car qui transporte les femmes au marché de Quimperlé. Je dirais maintenant je suis à l'aise partout, mais que je ne fréquente pas grand monde, donc je ne peux pas vraiment répondre. Mais je ne suis quand même pas très à l'aise avec les riches. En ce moment, je suis plus à l'aise avec les artistes, avec les paumés, avec les marginaux, avec les gens qui sont pas des acteurs de la vie sociale, en fait. En gros, c'est ça. Je suis pas à l'aise avec les gens de pouvoir, par exemple. Je suis pas très à l'aise non plus avec les gens qui sont très, très insérés. Mais j'y ai jamais été non plus. Je crois pas. Par contre, j'ai essayé, mais sans doute parce que ça, j'en ai souffert beaucoup, j'ai essayé d'élever mes enfants de manière à ce qu'ils soient à l'aise partout. Donc, je crois que j'ai réussi, ça va.
Excusez-moi, je ne vous connais pas. Le fait d'avoir évacué Paris pour l'Orient, est-ce que que ça a changé, tant soit peu votre respiration.
C'est beaucoup plus difficile de travailler ici.
Beaucoup plus difficile de travailler ici.
Oui. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à me donner une discipline en étant ici, parce que je suis à la campagne, parce que à la campagne, je suis revenue parce que j'ai été malade, hein, sinon je serais restée à Paris. Donc j'ai dû quitter mon boulot et me suis rapatriée ici. Mais j'avais plus de facilité à écrire à Paris, et puis la Bretagne était loin. Donc quand les choses sont loin, à la limite, le manque en est plus fort, et c'est plus facile d'écrire dans le manque que d'écrire quand la mer est juste en face de vous, par exemple. Bon, je prends ça, mais il y a aussi des histoires de discipline, et j'ai plus de mal à me donner une discipline ici. Mais sinon, au niveau de l'inspiration, je crois pas que ça change. Ça change beaucoup au niveau de l'ardeur au boulot. Puis les tentations sont plus... Enfin, je veux dire, les promenades et tout ça, c'est plus difficile. Je peux peut-être aborder à ce sujet-là, on allait en parler, je crois, des résidences, puisque là, je reviens d'une résidence d'écrivain. Ça m'a permis de retrouver une discipline de travail, parce que dans les résidences, on est là pour ça, on est là pour travailler. Et j'ai retrouvé le 9h-7h du soir où finalement je ne faisais qu'écrire et que travailler, chose dont j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à m'imposer ça quand je suis à... Parce que je vis à Cloire-Carnoët et j'ai beaucoup de mal à m'imposer ça quand je suis chez moi, en fait. Donc c'est plus dur. Mais quand j'étais à Paris, je travaillais et j'écrivais que le dimanche. Donc il y avait le... c'est tout un groupe littéraire qui fait partie de qui prône l'éloge de la contrainte, mais là j'avais vraiment remarqué que la contrainte c'était évident, ça fonctionnait bien, c'est-à-dire que la semaine je travaillais et le dimanche c'était consacré à l'écriture et vraiment je travaillais et j'écrivais. Quand on a toute la semaine pour écrire, c'est un peu plus dur.
Et vous avez eu l'occasion de présenter au livre au salon du livre à Paris ?
Oui.
Et en quelle année ?
Le dernier c'était On a marché sur la tête en 2007. Enfin, présenter ses livres, ça veut dire être assis à une table et puis il y a les livres devant. Puis on... si.
Dans les choses récurrentes qu'on trouve dans vos livres, il y a le fait qu'il n'y ait pas de notation géographique. On ne sait jamais où on est.
Il y a deux fois Sud Finistère.
Oui. Deux fois, hein, tout.
Dans la cabane d'Hippolyte. Voilà. Et temps, attention, éclaircie.
Les derniers, d'ailleurs.
J'aime pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est de la pudeur. Je sais pas si c'est le refus de racoler, parce que souvent j'ai trouvé que les noms de lieux étaient racoleurs. D'ailleurs, il y a un truc. Je suis persuadée que la cabane d'Hippolyte a eu deux prix bretons. Je sais pas si vous vous souvenez. Je me demande si j'avais pas mis Sud Finistère dedans. Est-ce qu'ils auraient quand même eu les prix ? Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Hein. Je veux dire que... Oui. Mais j'arrive pas. Je ne sais pas, j'y arrive pas. Alors que pourtant, moi, j'ai du plaisir à lire des choses. Je demande souvent, oui, ça se passe où ? Encore, je ne sais pas si je suis tellement sensible à ça, mais j'arrive pas. Comme d'ailleurs à certains moments, et certains personnages n'ont pas de nom. Dans Hôtel Maternel, elle n'a pas de nom, de prénom non plus. Mais ça n'a rien. Enfin, je suis pas sûre que ça soit du même registre, mais j'arrive pas. Peut-être que ça viendra, mais je sais pas du tout. Bah, de toute façon, moi je pense que j'invente rien. J'écris avec mon passé, avec le présent, avec le climat que je connais, avec l'environnement que je connais, ça se passe toujours en Bretagne. Mais je n'arrive pas, ça aurait été facile dans la cabane d'Hippolyte de dire Douélan, Cloire, tout le monde connaît la cabane, enfin je veux dire, mais ou alors c'est une façon d'avoir une distance par rapport aux événements, ou de créer quelque chose d'un peu, ça n'existe pas le mot brouillardeux, mais bon, on pourrait dire d'un peu brumeux, pardon, et puis... ou de me distancier, ou de faire un monde plus imaginaire, ou plus... Mais si le climat est très présent, et si on peut reconnaître très facilement, j'arrive pas pour autant à nommer le nom à donner le nom des lieux. Pour moi, ça se passait au Pouldu. Je veux dire que le petit bout d'Huel, d'ailleurs c'est pas compliqué, c'est ma maison. Ma maison est en forme de L. Moi, j'en ai le petit bout et puis le grand bout n'était pas à moi. Donc, le petit bout du L, pour moi, c'était ma maison. Et je ne sais plus, il y avait un ami qui avait lu, qui ne me connaissait pas, d'ailleurs, quelqu'un que j'avais connu après, qui, en le lisant, s'est dit, mais c'est pas possible, ça se passe au Pouldu, ça. Mais moi, j'ai pas pu nommer. C'est pas du tout une prétention, c'est que j'arrive pas. Peut-être que dans le prochain roman, j'y arriverai. Ça fait peut-être partie de l'évolution mais j'arrive même pas non plus à donner, pas me comparer à Julien Cracq, mais j'arrive même pas à donner d'autres noms, par exemple, quoi. Je reste dans le. Oui.
Mais peut-être que c'est aussi c'est mieux de suggérer un endroit que de donner un nom figé. Moi, j'ai souvent ce problème-là quand je lis des histoires, des fois qui sont situées par exemple à Marseille, une description de la ville intense. Tout d'un coup, je me sens perdu parce que j'y suis jamais allé et j'ai pas les repères. Et j'aime autant que l'histoire se passe peut-être à Marseille, mais que les noms soient pas cités pour que mon imaginaire puisse travailler plus.
En fait, ça laisse une liberté au lecteur, quoi, finalement. Ben, peut-être que c'est ça que je... La liberté des gens m'importe beaucoup. Donc, la liberté de l'autre, l'autre avec un grand A. Donc, peut-être que c'est pour ça que je nomme pas comme ça. Chacun peut s'y retrouver. Et puis, c'est vrai que j'aime pas imposer les choses. Et quand on donne les noms de lieux, ça impose. Alors, peut-être que c'est pour cette raison-là, je sais pas.
Je pense aussi pour des raisons commerciales aussi, maintenant.
Ah, c'est sûr que.
Il y a un offre à Claire Carnoët. Et c'est vrai que ça devient un peu n'importe quoi. Quand on en entend certains, des fois, je citerai pas de nom, mais il y a des gens qui parlent de thèmes. Ça y est, j'ai trouvé un thème qui va marcher parce que ça va parler aux gens cet été. Et voilà, moi, quand quelqu'un va me dire je vais écrire sur l'usine de Douélan, je ne vois pas de.
Colère et passion à Douélan pour nous.
Je me dis oui, d'accord, mais pourquoi il a envie de parler de l'usine de Douélan? Est-ce que ça lui parle vraiment ou est-ce que.
Bah c'est vrai que les polars ciblés, ça marche. Hein, je veux dire que c'est. Mais pour ce qui est du succès, on parlait des critiques. Il y a aussi le problème du succès commercial. Moi, je cherche pas, je crois pas. Enfin, si, on doit tous chercher ça, mais je cherche pas tellement à avoir du succès commercial. Du succès, parce que le succès c'est toujours commercial. Mais je cherche quand même à pouvoir me maintenir de façon à pouvoir continuer à écrire. Parce que vraiment, c'est ce que j'aime. Je veux dire que vraiment, c'est ça que j'aime. D'abord, c'est la seule chose que je sache faire. Et j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Et ce que je cherche vraiment, c'est pouvoir être publié tous les deux ou trois ans. Quoi. Ça, c'est sûr que ça, j'ai envie que ça marche et de rester la tête au-dessus du niveau de la mer pour pouvoir continuer à ça. Quant à avoir ce qu'on appelle du succès, bon, c'est toujours agréable d'avoir des critiques. Mais bon, on peut faire ça aussi. Et puis, la pluie. Non, plus au début, la pluie, moins. Bah, il y a que je suis de la côte, sans doute. Et. Ah non, j'habite toujours sur la côte. Mais non, mais il y avait sans doute qu'il y a une différence. Enfin, j'ai sans doute entendu ça, peut-être parce que, comme je disais tout à l'heure, j'invente pas grand-chose. Mais sans doute que j'ai entendu dire. Les cousins de l'intérieur, je pense que j'ai entendu ça. Ils viennent de l'intérieur. Mais dans le quartier dans lequel j'habitais à Lanester, il y avait donc c'était un quartier de maison neuve et tous les gens venaient d'endroits différents. Et c'est sûr que il y avait des gens d'origine paysanne et c'était des gens qui venaient de l'intérieur. Et on me faisait souvent remarquer qu'ils avaient plus de mal à s'habituer. Et pour moi, sans doute que il y a une opposition. Enfin, mais même à Cloire, je pense quand on parle des paysans et des pêcheurs et qu'ils s'entendent pas, bon, ça doit en Bretagne être mais partout je pense qu'il y a la côte et l'intérieur c'est pas dans les autres pays que j'ai pu visiter c'est pareil. Non mais je veux dire les autres pays par exemple je sais pas que j'ai pu voir mais la géographie même si je la nomme pas enfin si je nomme pas les lieux elle est hyper présente dans la géographie le climat
Alors, il y a d'autres choses qui sont très présentes aussi. Il y a les langoustines.
J'allais le dire.
La machine à coudre. La machine à coudre, les cajots.
Oui.
Le tricot. Le tricot est très présent.
Les langoustines, il faudrait que j'arrête peut-être parce que je crois qu'il y a dans le dimanche au restaurant, puis dans Attention éclaircie, là, ça. Oui. Mais je pense que. Enfin, Je crois qu'on écrit toujours le même livre aussi. Donc, même s'il y a des variations, peut-être Hôtel maternel sera un peu différent. Mais bon, c'est pour ça que quand je dis je comptais beaucoup sur la soirée de ce soir, et ça m'apporte. Parce que j'ai l'impression, avec ces 6-là, d'avoir terminé une... Comment on pourrait dire ? Une période, un cycle. Et que je vais commencer, comme si j'allais commencer autre chose. Alors, est-ce que je vais peut-être changer ? Est-ce que je vais quitter le monologue ? Est-ce qu'il y aura plus de personnages ? Est-ce que... De toute façon, je ne changerai pas dans ma façon de travailler. Ça restera toujours identique. Mais peut-être que les thèmes vont peut-être changer. Peut-être que... Bon... C'est vrai. Et peut-être que ça va bouger, quoi, en fait.
Et justement, là, vous avez quelque chose ? Vous avez commencé quelque chose ?
Bah, avant de partir dans ma résidence, là, j'avais commencé un roman. Et enfin, j'avais commencé quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être des textes courts, une nouvelle, des nouvelles ou un roman. Je ne sais pas encore. Là, j'ai le matériau. Contrairement aux fois précédentes, j'ai plus de matériaux, mais je ne sais pas du tout où je vais aller. Et ça va de toute façon commencer par une première phrase qui va m'attirer, me dire que je suis sur la bonne portée, que je peux y aller. Mais là, je ne l'ai pas encore.
D'accord.
Les nouvelles, c'est plus facile. Mais ça me donne moins de plaisir. Encore qu'on a marché sur la tête, j'ai beaucoup rigolé toute seule hein, quand on l'écrit. Non, je pense que c'est quand même les romans qui me donnent plus de plaisir. Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, de donner plus de plaisir aux gens avec les nouvelles. Mais je ne sais pas. Mais bon, puis le roman, c'est 2 ans de travail. Une nouvelle, c'est 2 mois. Donc, ou 3 mois. Un roman, on vit avec quand même pendant 2 ans. Donc c'est, quand je les vois, là, je me dis, bon, ben, on a quand même passé 2 ans ensemble. Un peu plus, un peu moins quelquefois, parce que ça ne peut plus durer, je l'écris plus vite. Mais... Non, c'est quand même plus pire. Les nouvelles, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, c'est comme des vagues, c'est à fleur de mer, enfin, alors que les romans, c'est plutôt comme des tempêtes sous-marines, je vais chercher plus loin, enfin, j'ai plus l'impression de plonger pour apporter des choses, pour faire les romans, que les nouvelles, où j'ai l'impression de prendre ce que les gens disent, et puis, à la limite, de pas creuser, quoi. Les nouvelles, c'est comme des photographies, alors que le roman, c'est plutôt un film où je creuserai un peu plus. Alors, les titres, soit ils me viennent comme ça, et j'en suis contente tout le temps. Le petit bout du L, il m'est venu, pas de souci. Hôtel maternel, d'emblée. Après. Au cours de l'écriture. Le petit bout du L, c'était au cours de l'écriture. Vous voyez, j'en parlais tellement du petit bout du L là-dedans. Que c'était. Puis en fait, je crois que c'était pas mal comme titre parce que ça a bien plu aux éditeurs. Parce que j'allais présenter à 5 éditeurs et en fait, il y en a 2 qui avaient été. 3 qui avaient été un peu intéressés. Mais je crois que le titre avait joué aussi. C'était un peu énigmatique comme titre. Mais il s'était imposé à moi. Hôtel maternel, il s'est imposé à moi. La cabane d'Hippolyte, il s'est imposé, mais je l'aimais pas. Je trouvais que ça faisait un peu Club des 5. Et puis j'avais dit à l'éditeur, je trouve que ça fait Club des 5, ça va pas. Et il m'avait dit, non, on le garde. De toute façon, comme il n'aimait pas le livre, je crois que le titre, il s'en foutait complètement. Et puis Hôtel maternel, ça j'y tenais beaucoup. Attention éclaircie, moi j'aurais préféré On ne souhaite pas la bonne année aux morts. Mais on m'a dit que c'était un peu, comment dire, il y avait aussi, ça c'était glauque, donc ça n'allait pas, mais j'aime bien quand c'est glauque. On a marché sur la tête, moi j'avais 2 titres, j'avais Sobriété ou Ça coûte cher de mourir, et puis ils ont préféré On a marché sur la tête. Et Le dimanche on va au restaurant, c'est pas mon titre, et ça me gêne toujours. Comme il était beaucoup question, pour ceux qui l'ont lu, de Chim, qui était diminutif de Joachim, moi j'avais choisi diminutif de Joachim, on m'avait dit que c'était trop intello, que ça n'allait pas. Mais j'étais pas suffisamment contente de mon titre pour le défendre. Quand j'étais suffisamment contente du titre, je voulais le garder. Et les autres où j'étais floue, attention éclaircie, j'étais pas tout à fait contente, donc j'ai un peu laissé faire l'éditeur. Et puis finalement, ça allait comme titre. Mais je le sens pas profondément comme le mien, quoi. Et puis ça ne peut plus durer, c'est ce qui m'était venu au début. Puis après, pareil, j'avais dit à l'éditeur, je trouve que ça va pas, et il avait préféré le conserver. Mais je ne m'en rends pas compte, il paraît que les titres, c'est important, moi je ne m'en rends pas compte. Je sais pas si... Pour moi, c'est pas important. Quand j'achète un livre, le titre n'est pas important. Mais il paraît que ça a de l'importance. Donc c'est même quelquefois la moitié du livre. Donc maintenant, je ferai attention. Ben oui, c'est des fois que je comprends pas pourquoi, mais il a publié mais à reculons. C'est-à-dire on le publie pour dire bon ben il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça, on le publie, on sait jamais, ça marchera peut-être. Ou on sait jamais, il faut peut-être le garder au cas où, mais bon. Si, ça a marché parce que ça a eu des prix. Donc pour l'éditeur, c'était valorisant de toute façon. Mais il avait pas envie de s'investir, enfin pas lui, mais d'investir les finances de la. Mais c'est de la réalité hein, que je décris, c'est pas du tout de.
Donc là, vous revenez des États-Unis.
Oui.
Vous aviez une résidence, donc vous en avez déjà fait plusieurs. Hein?
Quatre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, nous dire ce que ça vous apporte?
Alors, les résidences, il y en a de trois sortes. Il y en a qui sont en général organisées par les conseils généraux du livre ou par les DRAC. Enfin, je ne sais plus exactement quel est l'organisme financeur, mais qui sont des contrats passés avec les écrivains. Mais qui sont comme des contrats de travail, c'est-à-dire qu'il y a une résidence, on invite l'écrivain, on lui donne une bourse, mais on lui demande de faire un atelier d'écriture, d'avoir une visibilité auprès de la population, de participer à la vie culturelle de la région. Ça, c'est le premier type de résidence. Celle-là ne m'intéresse pas tellement parce que ben, on ne peut pas travailler. C'est-à-dire qu'on est pris par les choses extérieures, on est pris par les choses publiques, et finalement, on n'avance pas. Les autres résidences, c'est soit les résidences où on se retrouve en groupe dans un lieu précis, enfin une maison ou comme c'était en Suisse, un petit château, et où on est pris en charge totalement, où on reçoit une bourse ou on ne reçoit pas, mais où toute l'intendance est prise en charge et où finalement on ne demande rien d'autre que d'écrire. Et puis de nous tenir tranquilles, en fait, quand même. Et puis le troisième type de résidence, c'est les résidences où on est tout seul, et où, même système, l'intendance est prise en charge, et on ne nous demande rien d'autre que d'écrire. Et dans les deux cas, de signaler, lorsqu'on a terminé un livre, qu'on a été aidé par telle ou telle institution, par telle ou telle fondation. Et donc, moi, j'adhère plutôt aux deux derniers types de résidences, parce qu'on ne nous demande pas on nous demande rien sinon de nous consacrer à notre travail, en fait. Donc là, j'en ai eu quatre. J'en ai eu une d'un an en Suisse, où là, j'étais toute seule, où j'étais financée par le canton de Berne, et où on m'avait procuré un appartement, où j'avais une bourse, et où on m'a demandé d'écrire seulement. Et il n'y avait aucune contrepartie, simplement de signaler, comme je l'ai fait, c'est là que j'ai écrit La cabane d'Hippolyte, et de signaler que j'avais été aidée par la Suisse, et c'est tout. Donc ce que j'ai mis en tête du livre pour mes amis suisses. Voilà. Donc c'est en même temps très généreux parce qu'on est pris en charge pendant un an. Et les autres résidences, c'était des résidences de 3 semaines ou comme celle des États-Unis d'un mois où le système est le même, c'est-à-dire que l'intendance est prise en charge. Vous n'êtes pas chez vous, donc c'est comme si vous étiez à l'hôtel et puis vous travaillez. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'est simple. C'est le gros. L'intérêt aussi, c'est qu'on rencontre d'autres gens, mais en fait, on passe pas tellement de temps à bavarder, sauf à se retrouver le soir. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la discipline de travail, dans les résidences, on est là pour ça. En général, c'est isolé, et on n'a rien d'autre à faire que dormir ou travailler. Donc, moi, j'ai travaillé, quoi. Voilà, en gros, c'est ça ce que m'apportent les résidences. Et puis aussi une aisance financière quand les résidences offrent des bourses. Parce que l'écrivain ne vit pas de ses livres, enfin, la plupart. Enfin, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs qui ne vivent pas de leur travail. On cède dans la mesure où on se répète un peu toujours les mêmes choses le soir, c'est-à-dire ce que j'ai écrit aujourd'hui, ça ne vaut pas un clou. Mais on échange. Par exemple, moi j'étais en résidence l'année dernière en Suisse, il y avait des traducteurs et des écrivains. Et comme ça, j'ai rencontré une fille qui était traductrice du français à l'italien. Elle a lu Attention éclaircie, ça lui a plu, et de retour en Italie, elle s'est adressée à un éditeur qu'elle ne connaissait pas tellement d'ailleurs. Elle lui a proposé le livre, et l'éditeur l'a trouvé intéressant, et il sera traduit en italien, et il paraît en 2010 en Italie. Donc ça fait quand même des contacts qui ensuite peuvent être... Jamais mon éditeur ne sera allé proposer le livre, parce qu'il n'y aurait pas pensé, et puis parce que c'est pas dans... ça fait, bon, c'était pas dans ses objectifs. Tandis que là, c'est les éditions volantes qui sont un peu, bon, moi je connaissais pas, qui vont traduire le livre et qui le. Bon, ça fait des contacts aussi. Ça marche surtout quand, enfin pour moi, quand je me retrouve avec des groupes francophones. Aux États-Unis, j'ai eu un peu de mal. Parce que tout le monde parlait anglais et moi je suis pas très douée. Ben, en Suisse, c'était un an. L'année prochaine, j'en ai une de 3 mois et demi. Et aux États-Unis, c'était un mois.
Mais c'est vous qui postulez?
Oui. Ou ah, donc, on dépose un dossier. D'accord. Mais alors, il y a des notes. Enfin, c'est assez rigolo parce qu'il y a les écrivains à résidence et puis les écrivains qui s'en foutent. Enfin, les écrivains qui ne sont pas intéressés par les résidences. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants, ça ne vous intéresse pas franchement de partir en résidence. Donc, on sait à peu près qui va en résidence et on se renseigne. Alors, on met des étoiles. On se dit, ben, celle-là, elle est très bien. Là, il te demande beaucoup de bosser à l'extérieur. T'y arrives pas, tu peux pas travailler pour toi. Enfin bon, on se donne des indications. Enfin, c'est un petit peu comme les guides Michelin, on met des étoiles aux résidences, quoi. Et puis, mais ça, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que je crois que c'est surtout la discipline de travail et j'essaye de la conserver après en rentrant. Bah, dans la mesure où on est plusieurs, oui. Donc, puis on se crée son monde.
Voilà. Bon. Alors, avant de terminer, je voulais vous demander, c'est une habitude qu'on a de demander aux écrivains qu'on reçoit s'ils ont lu quelque chose récemment dont ils aimeraient nous parler, enfin nous donner envie de lire.
J'ai lu dernièrement un livre qui m'a fait rire, enfin, je vous dis ça comme ça, Petit suicide entre amis. Je pense que c'est ce que j'ai lu vraiment dernièrement. Avant, j'avais lu. J'ai bien aimé, mais c'est là que je me suis dit qu'on écrivait toujours le même livre. J'ai lu d'un coup tous les livres d'Anita Bruckner. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai bien aimé sa façon d'aborder le caractère féminin, le côté un peu dépressif, la façon dont elle, avec un petit peu de recul, il y a quand même finalement pas mal d'humour. Mais je me suis dit en la lisant. Que, bah, elle écrivait toujours le même livre. Je me suis dit que moi, je faisais pareil, peut-être. Et que bah, bon, c'était bien, hein, qu'on retrouvait le même univers, mais c'était un peu... Et on avait parlé au téléphone, j'ai lu... je suis en train de lire Chimère, mais je n'arrive pas à prononcer son nom, de Nuala...
Faulen.
Et j'ai bien aimé l'autre, la Best Love... Rosie.
Rosie ou Rosa, je ne sais plus.
Rosie, c'est Rosie. Ça, ouais. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Et là, en lisant Chimère, je me dis la même chose. C'est bon, elle a écrit. C'est le même univers, c'est la même chose. D'autant plus que j'ai lu son autobiographie avant et que c'est pas. Enfin, on reste dans le même, même chose. Mais ce que je crois, puis on pourrait peut-être terminer là-dessus, c'est que je crois qu'il y a des écrivains qui me donnent envie d'écrire. Et il y en a d'autres qui me donnent envie de lire. Et ceux qui me donnent envie d'écrire, pendant un temps, il y avait Marguerite Duras. Ça s'est passé. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il... Je sais pas, c'est passé. Elle m'intéresse beaucoup moins. Il y a eu Elfriede Jelinek qui m'a beaucoup intéressée. Il y a Thomas Bernhardt qui me donne beaucoup envie d'écrire aussi. C'est des univers qui me... Enfin, je sais pas, d'abord ils me font sourire et puis ça... Je sais pas, c'est caustique, j'aime bien. Et puis les gens qui me donnent envie de lire, bah, c'est les gros pavés là, qu'on fait maintenant. Et puis je crois que c'est la mode des gros pavés. Et puis il y a des livres pour lesquels j'ai eu un coup de foudre, comme Nous sommes éternels de Pierrette Feuthiau, mais c'était il y a longtemps. Il y a eu les livres de Doris Lessing, Toni Morrison. C'est plutôt des livres de femmes quand même dans l'ensemble. Et puis je sais que j'ai fait Suis tout le monde avec Train de nuit pour Lisbonne, mais qui m'avait beaucoup plu. Mais ça, pour moi, c'est le type même de livre où je pense que l'auteur s'est fait plaisir et qui nous fait plaisir en même temps. Je trouve que là, pour moi, c'est une œuvre, ça. Même par rapport au livre ou au texte dont j'ai parlé avant, celui-là, il joue pas dans la même cour, quoi. Ouais. C'est autre chose. Enfin, je trouve c'est un chef-d'œuvre pour moi.
Carrément.
Ah ouais. Ah
ouais. Alors, pour terminer, vous vouliez, pardon. Ah non, excusez-moi. Pour terminer, parce que là, après, il y a les livres de Marie Le Drian, hein, vous pouvez en acheter, vous pouvez vous les faire signer, j'imagine. Mais je voudrais terminer par une toute petite lecture, hein, c'est une phrase ou deux. C'est un texte que Jean-Noël Blanc a écrit sur Marie Le Drian. Alors Jean-Noël Blanc, pour ceux qui fréquentent beaucoup la médiathèque, nous l'avons reçu au printemps dernier. Et voilà ce qu'il écrit de Marie Le Drian,
Elles ne disent que ce qu'il faut. Elles donnent à comprendre avec des mots qui n'ont l'air de rien. Elles disent tout. Et avec des phrases courtes, posées, entêtantes, elles trouvent ce qu'on appelle un ton ou une voix. Ils ne sont pas nombreux les écrivains qui possèdent une voix, une vraie. Marie Le Drian en possède une. Il faut l'écouter attentivement.
Merci beaucoup.